Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité.
Bonjour, on va attaquer. Bonjour, bienvenue. On va donc attaquer ce troisième cours de cette année qui va vraiment se centrer sur l'étude des interactions entre neurones sensoriels et cellules immunitaires dans la peau. Et on va juste un petit peu revoir le contexte des cours précédents, résumé des épisodes passés, pour voir dans quel contexte ce cours s'intègre. Donc on a tout d'abord vraiment focalisé notre étude sur les interactions entre ces deux grands systèmes qui interagissent de manière très différente, qui médient des interactions avec le monde environnement, mais de manière très différente, et dont l'interaction est clé dans la physiologie des organismes, mais aussi dans la pathologie. On a vu que s'ils ont été étudiés de manière séparée, il y a vraiment des dialogues entre ces deux systèmes qui sont clés. On a vu dans le premier cours qu'on avait depuis longtemps finalement des exemples illustrant ces dialogues-interactions, les signaux inflammatoires dans la douleur, mais qui peuvent aussi induire ce qu'on appelle un comportement de maladie, c'est-à-dire une réponse stéréotypée de l'organisme, une série de comportements associés simplement au fait d'être malade dans des contextes d'infection bactérienne et virale. On a vu aussi que la régulation immunitaire, qu'il y avait une régulation du système immunitaire par le cerveau et notamment par les voies du stress. Et on a vu que tout cela était médié par des voies de communication existant dans l'organisme, des voies humorales passant par la circulation sanguine, des voies nerveuses et aussi des cellules qui peuvent se déplacer. Alors plus particulièrement la semaine dernière, on s'est intéressé aux bases de ce dialogue entre les deux systèmes et on a vu que, en fait, si de manière stéréotypée, par exemple, les cytokines sont des molécules qui permettent le dialogue entre des cellules du système immunitaire et que les neurotransmetteurs ou neuropeptides ont été associés à de la communication entre des neurones, en fait, cellules nerveuses et cellules immunitaires sont capables d'utiliser ces voies de communication pour interagir neurone-neurone, cellule immunitaire-neurone, l'inverse aux cellules immunitaires. Et donc, on va retrouver finalement l'existence d'un dialogue possible parce que les cellules des différents systèmes nerveux immunitaires sont capables d'interagir. On a vu aussi qu'il y avait des grandes voies de communication, notamment des voies nerveuses. On s'est beaucoup intéressé au système sensoriel et je vais beaucoup en reparler aujourd'hui dans le contexte de la peau et du système sympathique et parasympathique qui est formé de nerfs différents, qui innervent différents organes notamment, qui fait partie du système nerveux autonome qui contrôle donc les fonctions autonomes non conscientes associées aux différentes viscères. On a vu que ces voies nerveuses sont importantes pour les interactions neuro-immunitaires et qu'il existe d'autres voies, par exemple des voies systémiques de production qui vont utiliser la circulation sanguine comme dans le contexte du stress. Dans le contexte du stress, différentes structures du cerveau sont capables soit d'aller activer via différents noyaux ce fameux système sympathique qui va innerver différents organes et mobiliser l'organisme dans un contexte de réponse à un stress, mais ça va avoir aussi un effet sur les cellules immunitaires, et en parallèle via le système neuro-endocrinien, l'hypothalamus, l'hypophyse et la production et la génération de ces différents facteurs jusqu'à la production de cortisol, qui est un glucocorticoïde endogène et une réaction donc anti-inflammatoire, on va avoir un effet fort, différent, via différentes structures sur le système immunitaire. Et pour finir, ce schéma très compliqué, mais que je vais vous résumer en deux mots, j'ai été un peu vite, donc je vais en profiter pour rappeler ce qu'on a vu, c'est que donc des effets, le stress ou des menaces ou une influence psychologique va passer par différents circuits du cerveau pour aboutir sur, encore une fois, deux voies différentes. La voie hypothalamo-hypophyso-surrénale qui va permettre la production de différents facteurs, notamment la corticostérone, et puis une voie vraiment parasympathique qui va pouvoir activer différents circuits, différentes structures et avoir des effets différents sur les cellules du système immunitaire. Leur activité, mais aussi la production de certaines cellules immunitaires dans des centres lymphoïdes qui génèrent ou dans lesquels ces cellules vont être ensuite activées. On a donc des effets différents et on a des effets, et ça c'est important, qu'on connaissait bien sur l'immunité innée, mais aussi sur l'immunité adaptative, par exemple la production de certains anticorps. On a également une voie systémique qui peut passer par le nerf vague, mais aussi par des organes qu'on appelle circonventriculaires, c'est-à-dire des zones du cerveau qui sont plus en contact avec la circulation sanguine, où des cytokines vont pouvoir agir ou être relayées sur différents circuits. En ce qui concerne le nerf vague, ça va vraiment se concentrer sur ce noyau du tractus solitaire et différents noyaux associés, et on va avoir une réponse. La voie descendante est postulée passant également par le nerf vague, mais peut-être par la voie sympathique, ce qui va aboutir à ce qu'on appelle un réflexe immunitaire cholinergique qui a un effet très rapide pour diminuer l'inflammation. Donc des voies croisées vraiment très importantes à l'échelle de l'organisme complet. Aujourd'hui, on va se focaliser plus à l'échelle de l'organisme, mais à l'échelle d'un organe. On va vraiment regarder dans la peau les interactions entre les cellules immunitaires qui sont résidentes dans les tissus et les différents nerfs qui arrivent, pour regarder comment dans un organe, l'interaction entre ces composés peut réguler des fonctions qui vont être essentielles à différentes propriétés. Et on reviendra au cours prochain sur des choses beaucoup plus centrales, où on essaiera de comprendre comment l'ensemble des signaux associés, on va dire, au système immunitaire, à l'état d'inflammation, etc., sont surveillés, monitorés, régulés au niveau central, et comment est-ce que le cerveau interprète l'état global du système immunitaire en réponse à des inflammations ou des infections. Donc vraiment, on va regarder des interactions locales. Et on va se concentrer sur la peau. Alors pourquoi la peau ? Ben la peau, parce que c'est finalement, on va le voir, un organe barrière qui recouvre l'entièreté de l'organisme, qui est vraiment une interface entre le monde extérieur et le monde intérieur, je vais revenir là-dessus. Et finalement, la peau a été un modèle absolument essentiel pour étudier ces interactions neuro-immunitaires. D'abord parce que c'est un modèle qui est accessible. C'est externe, parce qu'on connaissait très bien finalement l'innervation sensorielle et les cellules immunitaires présentes, parce qu'on a pu vraiment regarder, manipuler, observer ce qui se passait chez des êtres humains, chez des patients, chez des individus, mais également dans des modèles de pathologie, des modèles d'expérimentation animale. Et enfin, parce qu'il y avait aussi un besoin important d'évoluer ou de faire évoluer des traitements d'un grand nombre de pathologies qui touchent à la peau et dont on va le voir, dans lesquelles les interactions neuro-immunitaires sont essentielles, et l'étude des interactions neuro-immunitaires a permis le développement de nouveaux traitements ou de nouvelles biothérapies et probablement permettra finalement le développement d'autres approches thérapeutiques. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce modèle, et aussi parce que c'est un modèle finalement un petit peu plus simple, enfin même si c'est quand même encore un peu compliqué. Voilà, c'est le plan du cours d'aujourd'hui, et on va commencer déjà par s'intéresser à ce qu'est la peau, et en quoi ou pourquoi c'est un modèle intéressant pour l'étude des interactions neuro-immunitaires. Donc la peau, c'est un organe parce que finalement, c'est composé de plusieurs tissus. Composé de l'épiderme, le derme, l'hypoderme, donc différents tissus. La peau, ça, c'est un exemple de peau humaine. Pour un individu, en fonction de sa taille et de sa corpulence, c'est entre 1,5 et 2 mètres carrés de surface. Et c'est ce qu'on appelle un organe barrière, c'est-à-dire que c'est vraiment une frontière entre ce qu'on va appeler le milieu intérieur, l'organisme, et ce fameux monde externe. C'est une barrière et c'est un lieu de défense vis-à-vis des pathogènes. C'est un organe qui va protéger l'organisme, l'individu, d'agents pathogènes. Mais c'est aussi, finalement, un lieu d'interface clé avec ce monde extérieur. Et en ce qui concerne le monde microbien ou bactérien, c'est ce qu'on appelle le microbiote cutané, c'est-à-dire un ensemble de micro-organismes, de bactéries, de champignons, de virus qui vivent en, on va dire, en bonne entente, ou on a des agents pathogènes, on reviendra là-dessus, qui vivent finalement avec l'organisme. Donc on parle beaucoup du microbiote intestinal, mais on a aussi, bien sûr, un microbiote cutané qui joue un rôle essentiel. Et puis sur un plan, on va dire, plus neurobiologique, c'est un organe absolument essentiel pour la perception. Et on va revenir là-dessus, mais toutes sortes de formes de perception, la température, le toucher doux, la douleur, la démangeaison, on parlera pas mal de démangeaison. Si vous vous grattez après, c'est possible. Parce que quand on parle de démangeaison, quand on pense à la démangeaison, ça gratte. Mais en tout cas, voilà, tout un ensemble de perceptions sensorielles qui est finalement une première interface avec l'ensemble du corps. Alors, sur un plan immunologique, la peau contient un nombre de cellules immunitaires et une diversité de cellules immunitaires absolument phénoménale. Et c'est compréhensible dans le sens où c'est un organe qui est, encore une fois, clé, puisque c'est le premier rempart vis-à-vis du monde extérieur. Donc on va retrouver dans l'épiderme des cellules de l'immunité innée, comme des macrophages spécialisés, les cellules d'Enguerrand, des cellules T, des macrophages, etc., etc. Toutes les cellules sont présentes. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, il y a ici donc différents types de macrophages. On va retrouver des mastocytes, dont j'ai déjà un peu parlé, qui sont des grosses cellules qui sont capables de dégranuler très vite et qui sont impliquées dans le déclenchement des réponses aux allergies. On a des cellules, encore une fois, B, T, ces petites cellules qui sont des cellules lymphoïdes, donc de la classe des lymphocytes, mais qui sont des cellules innées, c'est-à-dire qui reposent peu sur une éducation de leur répertoire, comme les cellules T ou les cellules B classiques, etc., etc. Et on peut avoir, on l'a vu la semaine dernière, des réponses inflammatoires, des réponses à des pathogènes, etc. C'est un site d'interaction, comme je le disais, avec le microbiote cutané. Et le microbiote cutané, finalement, fait partie intégrante des propriétés d'organes barrières. C'est-à-dire que le microbiote cutané va, dans sa composition, par exemple, empêcher ou limiter la colonisation par des agents pathogènes. Soit parce qu'elle va être capable de, on va dire, de s'organiser en communauté de micro-organismes qui vont plus ou moins laisser s'implanter d'autres souches, soit de bactéries, soit de champignons, soit de virus. On a aussi des produits chimiques qui vont être produits, une barrière physique. Et de manière extrêmement importante, le microbiote cutané est très important pour l'immunité de la peau. C'est-à-dire qu'il va en permanence réguler l'immunité ou l'activité des cellules immunitaires présentes dans la peau à l'état adulte, mais aussi contribuer largement à l'éducation de ce système immunitaire. Et dans quelle mesure est-ce que ce système immunitaire va pouvoir tolérer ou réagir de manière vive à différentes compositions du microbiote ? Il y a beaucoup différents facteurs qui peuvent jouer sur la composition du microbiote, sur l'évolution au fur et à mesure du temps de ce microbiote. Et puis, il y a un point que je voudrais soulever, parce que c'est important, c'est que quand on parle de microbiote ou d'agents pathogènes, on a toujours l'idée que les micro-organismes avec lesquels on vit de manière, on va dire, en bonne harmonie, donc on peut parler de commensalisme, c'est des micro-organismes avec lesquels on vit bien, normalement, il ne se passe rien. On peut parler de mutualisme, à ce moment-là, c'est des micro-organismes qui nous apportent quelque chose et auxquels éventuellement on peut apporter quelque chose, on met donc des choses en commun. Et puis, pathogène, c'est-à-dire que ces agents, ces micro-organismes vont, en revanche, avoir une action délétère. Et en fait, ces critères sont extrêmement variables en fonction du contexte, de la situation immunologique de l'individu, est-ce qu'il est immunodéprimé ou pas, et de si, par exemple, cette barrière est maintenue physiquement ou s'il y a une brèche dans ce contexte. Et par exemple, je vais parler du staphylocoque aureus ou du staphylocoque doré, et j'en reparlerai dans le cas de l'eczéma. C'est une bactérie qui peut exister sans aucun souci, sans aucun problème au niveau de la peau, et puis en fonction du contexte, et par exemple dans le cas de l'eczéma où on peut avoir des lésions associées ou une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la composition entre les différents micro-organismes dans le microbiote cutané, peut avoir un effet délétère, et puis ça peut aussi causer des infections, des abcès, etc. Et donc en fait, la présence de ce micro-organisme peut aller d'un agent pathogène à quelque chose que l'on peut très bien tolérer. Donc en fait, quand je parle d'interaction avec le monde microbien, c'est quelque chose qui va de micro-organismes qui peuvent avoir un effet mutualiste, commensal, ou éventuellement des agents pathogènes. Je parlais d'éducation du système immunitaire par le microbiote. On ne va pas véritablement adresser cette question parce que c'est un champ entier, il faudrait un cours entier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'effet du microbiote sur le développement, la maturation, l'éducation des cellules immunitaires dans la peau est clé. J'ai juste pris un exemple d'un papier qui a été publié récemment par le laboratoire de Yasmine Belkaïd, où le microbiote est absolument essentiel pour l'effet de ces cellules lymphoïdes innées, ILC2, qui produisent de manière dépendante de l'identité sexuelle un composé qui va agir sur la maturation et l'efficacité de certaines cellules immunitaires, comme les cellules dendritiques. Ça veut dire que le microbiote va avoir un effet chez les mâles ou chez les femelles qui va être différent et aboutir à une différence de la réponse immunitaire dans la peau en fonction de l'identité sexuelle. Tout ça pour vous dire que le microbiote est finalement une partie intégrante de l'éducation et de l'intégration de tout un tas de facteurs dans la maturation des cellules immunitaires présentes dans la peau. Ok ? Ça va ? Bon. Ça, c'était pour les cellules immunitaires et le microbiote. Maintenant, la peau est aussi un organe qui est extrêmement innervé. Et vous le savez, parce que c'est très désagréable quand on a une région de la peau qui est dénervée. C'est une sensation à laquelle on n'est pas du tout habitué. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un petit peu plus simple que d'autres organes. Il n'y a que l'innervation du système parasympathique dont je parlerai très peu, mais qui est quand même importante. Donc, les fibres sympathiques sont très importantes, par exemple, pour réguler la transpiration, je pourrais en parler aujourd'hui, et aussi tout ce qui va être la régulation de la vasodilatation. Donc, dans un contexte, par exemple, de stress, le système sympathique va avoir un effet très fort. Et on va surtout parler aujourd'hui du système somatique, somatosensoriel, vraiment une innervation par différentes fibres nerveuses, et là, on rentre dans un univers, qui vont médier des fonctions très différentes, mais qui vont être essentielles donc, aux fonctions de perception sensorielle et des différentes modalités. Donc on a les fibres C, A-delta, A-bêta, on y reviendra. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vais plutôt essayer de vous donner une vision globale. Donc les neurones sensoriels, ça fait partie du système somatique. C'est des neurones qui sont unipolaires. Le corps cellulaire est présent dans les ganglions rachidiens. Ils envoient deux branches, une vers la peau, une vers la racine dorsale de la moelle épinière. Par exemple, ce circuit sensoriel est impliqué dans le réflexe de retrait via une boucle motrice, mais aussi tous les signaux sont relayés au cerveau. Et là, on a des signaux de type très différents. On va avoir une multitude, et je reviendrai sur la classification, mais une multitude de neurones sensoriels différents qui ont été maintenant bien caractérisés par différentes techniques, traçage, la taille des fibres, les études de transcriptomique qui permettent d'identifier des populations différentes. on n'y voit encore pas tout à fait très clair, totalement clair, mais ces différents neurones vont médier des fonctions ou des propriétés différentes. La mécanosensation, la thermosensation, le chaud, le très chaud, le froid, la nociception, la douleur, le prurite ou la démangeaison, je vais utiliser cette terminologie de manière un petit peu équivalente. La proprioception, j'en parlerai pas, mais c'est vraiment tout ce qui est la perception du corps, de l'équipe, etc. L'interoception, j'en parlerai au cours numéro 4. Donc, je parle de réflexe. Le réflexe de retrait, on se brûle, on enlève la main. Et la douleur est finalement associée à ce réflexe, mais c'est un mécanisme protectif, puisque tel qu'il a été décrit, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour que l'on se souvienne qu'il ne faut pas, entre guillemets, faire cette action. Donc douleur, nociceptif, neurone qui médie la douleur, nocicepteur, c'est des termes que je vais utiliser de manière assez équivalente. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'une réponse immunitaire essentielle de tous les tissus, qui est l'inflammation, qui est aussi un mécanisme protecteur, qui peut mal tourner, mais qui est protecteur, qui est une réaction stéréotypée face à une agression externe, infection, etc., processus universel de tous les tissus, a un des signes cardinaux, c'est la douleur. On a rougeur, gonflement, etc., et la douleur. Et ça fait intervenir l'immunité innée adaptative, et quand les réponses inflammatoires sont dérégulées, on a des défauts, des effets dans un grand nombre de pathologies, pathologies auto-immunes, métaboliques, chroniques de l'intestin, vasculaires, neurodégénératives, etc. Donc on avait déjà parlé de l'inflammation et de la douleur. Une autre fonction qui est relayée par ces fibres, ou une autre propriété, c'est la démangeaison ou le prurite. Alors, ce n'est pas vraiment un réflexe, mais c'est considéré comme faisant partie d'une boucle protectrice. Donc, qu'est-ce que c'est que la démangeaison ? C'est une sensation légèrement désagréable qui nous pousse vraiment à se gratter. Donc, tous les animaux le font. Il y a de grandes caractéristiques. On pense, ou en tout cas, c'est associé à l'élimination d'irritants cutanés, mais aussi d'ectoparasites, des moustiques, des tiques et d'autres choses. C'est impliqué dans les réponses allergiques. Et on a aussi ce qu'on appelle une démangeaison miroir. Si vous voyez quelqu'un se gratter, en général, on a assez vite envie de se gratter également. Alors, quand on pense à la douleur, on imagine bien ou on sait qu'il y a des pathologies chroniques de la douleur qui sont absolument dévastatrices et qui peuvent causer, on va dire, ou impacter vraiment le quotidien et la vie des gens qui en sont atteints. Mais la démangeaison ou le prurite, et le prurite chronique, c'est-à-dire vraiment un prurite qui peut s'étaler sur plusieurs semaines et qui est incontrôlable, peut vraiment atteindre, enfin, les maladies chroniques du prurite sont vraiment aussi extrêmement dommageables. Elles sont présentes dans un grand nombre de pathologies qui sont très connues, on va en parler. Bon, il y a l'eczéma, mais il y a d'autres types de pathologies. Et puis, il y a des pathologies qui ne sont pas du tout finalement associées ou directement à des choses très locales, qui peuvent être une insuffisance rénale, certains lymphomes, etc., etc. Et donc, il y a une vraie possibilité de dérégulation de ce processus, qui est associé donc à une baisse de qualité de vie notable et un grand nombre de pathologies. Donc le cycle démangeaison-grattage, j'y reviendrai, mais donc on a un besoin impérieux de se gratter. Ça induit une action donc de grattage qui apaise très transitoirement le prurite. Il y a une interaction croisée en fait entre les neurones qui médient l'un et qui médient l'autre, mais ensuite le prurite revient et revient plus fort et on verra pourquoi. Donc les différentes fonctions ou ces différentes, on va dire, propriétés, encore une fois, sont médiées par des neurones très très différents, j'en parlais, qui vont aller contacter. Donc là c'est vraiment le toucher mécanique, mais la plupart des fibres qui sont associées à la douleur et au prurite sont des petites fibres qui sont présentes dans la peau. Et alors, comment on a classifié les neurones ? On les a classifiés initialement en fonction de leur taille et de leur vitesse de conduction. Donc, ces fibres ici sont très myélinisées, elles sont très larges et elles médient le toucher non douloureux. Et puis, ces deux plus petites fibres, A-delta et les fibres C, qui sont principalement celles qui nous intéressent, faiblement ou pas du tout myélinisées, et elles médient la douleur, le prurite et la température. Mais cette classification a véritablement énormément évolué et maintenant c'est assez compliqué, c'est un paysage un petit peu compliqué. Alors, un grand repère quand même, c'est cette dichotomie entre ce que l'on appelle pour les fibres C qui sont vraiment dans la peau, c'est ce qu'on appelle des fibres peptidergiques qui sont capables de relarguer des neuropeptides, et on verra comment et ce qu'elles font, on l'a déjà vu un peu la semaine dernière, mais qui sont capables donc de relarguer ces neuropeptides, substance P et CGRP, et des fibres qu'on appelle non peptidergiques, mais dont certaines sont quand même capables de relarguer des neuropeptides. Donc c'est une classification qui est un petit peu différente. Par contre, elles sont marquées par l'expression de certains récepteurs très particulier. Ces différents types de neurones sont associés principalement à certaines propriétés, bien qu'il y ait des neurones qui puissent faire des choses un petit peu différentes. Alors, quand on regarde la transcriptomique, ça donne ça, en termes de propriétés ou de sous-types. C'est très compliqué. Donc ici, PEP, c'est les peptidergiques, les non-peptidergiques et les différents récepteurs qui sont exprimés. J'y reviendrai, ce récepteur, ces deux neuropeptides qui peuvent être produits, substance P ou CGRP, etc., etc. Ici, ces petits sigles, c'est pour la chaleur, le petit marteau, c'est pour mécanoception, le petit flocon, c'est pour le froid, etc., etc. Ça, ce sont les fibres C, qui sont donc celles qui sont vraiment, qui nous intéressent plus particulièrement. Et on va s'intéresser ici à ces neurones qui sont marqués par ce récepteur, j'y reviendrai, ce canal, TRPV1, et également la capacité donc de neurones peptidergiques à produire ces deux peptides. Donc en fait, on va principalement parler de cette population, de ces populations, avec ces neurones ici qui sont très importants peptidergiques, qui sont beaucoup impliqués dans la douleur, et ces populations qui sont beaucoup plus impliquées dans la démangeaison, en tout cas médier la démangeaison, notamment ces petits neurones ici qui ont le doux nom de MGPRA3+, qui sont importants, en tout cas qui sont clés pour la démangeaison. Alors pourquoi ce canal ici? J'en parle en deux mots. C'est un canal très important qui médie, qui a été isolé il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait partie d'une famille qui médie donc la chaleur et qui est important pour médier la température, mais qui aussi répond par exemple à la capsaïcine qui est présente dans le piment, capsaïcine, qui est présente dans le piment. Et donc en fait, juste je voulais vous donner cet exemple pour vous montrer que quand on parle de ces neurones, finalement quand on mange du piment, quand on est en contact avec du piment et que on a une sensation de brûlure, c'est effectivement parce que ce sont exactement les mêmes récepteurs qui sont activés quand on a de la brûlure ou quand on est en contact avec un composé de cet ordre-là. Ce récepteur, qui est important pour la sensation de frais, répond directement au menthol. Donc en fait, on a des récepteurs qui sont capables de médier toutes ces sensations et qui vont en même temps répondre à différents composés et puis permettre de répondre. Donc encore une fois, ces neurones-là, vous allez les retrouver sur les schémas, on parle souvent de ces neurones, donc c'est une manière aussi de les marquer, de les manipuler. Donc encore une fois, ici des neurones qui sont capables de produire ces peptides, ces neuropeptides importants pour la douleur, et ici ces neurones un petit peu différents qui vont médier la démangeaison. Alors ces neurones qui sont dans les ganglions rachidiens, encore une fois, la ségrégation n'est pas complète. Il y a des neurones qui peuvent faire des choses un petit peu différentes. Et puis, vous voyez qu'ils peuvent tous relayer la sensation de chaleur et puis d'autres, etc. Ces neurones vont ensuite envoyer une branche dans la moelle épinière et tout ça va remonter et va passer dans différents circuits pour aller atteindre le cerveau. Et par exemple, on connaît très très bien les voies centrales de la douleur. On commence vraiment à identifier les voies centrales liées à la démangeaison, mais c'est des choses, voyez, qui sont assez récentes. Et par exemple, des choses très récentes sont encore focalisées sur est-ce que au niveau central, les régions et les neurones qui sont impliqués dans la douleur ou dans la démangeaison sont dans les mêmes structures, dans les mêmes circuits, etc. Donc des neurones sensoriels qui peuvent médier différentes fonctions, qui sont des neurones de classes différentes, qui peuvent néanmoins avoir des propriétés chevauchantes et en tout cas au niveau central qui peuvent se croiser. Encore une fois, par exemple, la douleur va inhiber la démangeaison au niveau de la moelle épinière. Il y a des très jolis papiers qui montrent qu'il y a un interneurone qui permet entre les deux de switcher l'un à l'autre. Et puis, on a des voies ensuite qui peuvent remonter et aller dans le cerveau. Donc, la peau, un bon modèle d'étude parce qu'on a différents neurones sensoriels qui vont médier des fonctions différentes et une présence d'une multitude de cellules immunitaires dans un organe barrière. Et en même temps, si on compare avec d'autres organes barrières, qui sont par exemple les intestins, les poumons, et on le verra aussi, donc on verra ces organes l'année prochaine, aussi les méninges, qui est un autre type d'organe barrière, mais qui est un organe barrière du cerveau. En fait, on est dans une situation qui est plus simple, même si vous verrez encore une fois qu'elle ne l'est pas toujours, plus simple parce qu'on n'a que ces neurones sensoriels venant des ganglions rachidiens, alors que dans ces autres organes, on a ces neurones sensoriels. Mais on a aussi toute une innervation parasympathique qui vient du nerf vague et qui, entre guillemets, interagit de manière assez complexe avec l'environnement local. Et en plus, dans les intestins, on a le système nerveux entérique, système nerveux local des intestins qui, là aussi, joue un rôle. Donc on va maintenant regarder un peu, et c'est des choses qu'on a vues en partie la semaine dernière, mais qu'on va remettre en contexte. Mais comment est-ce que les neurones sensoriels et les cellules immunitaires peuvent se parler dans le contexte de la peau et avec, on va dire, quelle est la contribution de ces interactions à des fonctions assez diverses? Donc ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on va reprendre là, c'est que les neurones sensoriels peptidergiques, c'est-à-dire ceux qui sont capables de relarguer des neuropeptides, substances P, CGRP, et qui sont principalement des neurones nocicepteurs, donc liés à la douleur, enfin, on dit la sensation de douleur, ont une propriété particulière qu'on appelle le réflexe axonal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils sont stimulés, on va avoir le potentiel d'action qui va aller jusqu'à la moelle épinière, puis remonter dans le cerveau, etc. Mais il va aussi se propager dans les autres branches, et ça va aboutir à la production et enfin, au relargage de ces fameux neuropeptides qui vont aller agir sur les cellules immunitaires. Donc on a vu ça la semaine dernière, la substance P peut agir directement sur ces mastocytes qui sont essentiels dans la réponse inflammatoire et dans la réponse allergique, qui vont dégranuler et produire des médiateurs inflammatoires. De la même manière, la substance P peut agir sur des macrophages, etc. Et puis, cet autre composé, CGRP, va agir sur ce double récepteur pour avoir un effet assez différent, cette fois-ci anti-inflammatoire. Et globalement, la substance P, en général, a un effet pro-inflammatoire, alors que CGRP va avoir un effet assez différent en fonction du contexte, des cellules immunitaires et de ce qui se passe. Néanmoins, ce réflexe axonal est vraiment associé à ce qu'on appelle l'inflammation neurogène, c'est-à-dire la capacité de ces neurones, peptidergiques qui médient la douleur à créer une inflammation locale, même s'il n'y a pas de stimulation des cellules immunitaires directes. Et donc ça va induire une réponse locale. Donc ce réflexe axonal des neurones nocicepteurs peptidergique. C'est quelque chose qui va être très important dans un grand nombre de situations. Donc, je disais ici les mastocytes, mais ça va aussi agir sur des lymphocytes, sur des cellules innées du système lymphocytaire, sur la vasodilatation, etc., etc. Coordonner une réponse dans un contexte d'inflammation. Ce qui est absolument remarquable dans cette propriété toute simple de ces neurones, c'est qu'en fait, le réflexe axonal a aussi un rôle dans d'autres fonctions. Et par exemple, des travaux extrêmement élégants ces dernières années ont montré que ça avait un rôle dans la régulation de l'immunité. Alors pourquoi, comment ? En fait, si on a ici, par exemple, une activation d'une branche qui va permettre une défense immunitaire d'un type particulier, ça va permettre de relarguer localement ce fameux composé CGRP qui va produire une réponse qui va permettre de booster cette immunité de manière locale. Mais on a aussi, plus loin, à un endroit où il n'y a pas encore d'attaque infectieuse, une production de CGRP et la production ou le boost de cette réponse immunitaire. Et donc on a, juste à côté, un boost de l'immunité locale pour empêcher finalement que l'infection ou que l'inflammation se répande. Donc cette organisation neuro-immunitaire, elle permet de coordonner de manière très locale un boost d'immunité pour protéger l'organisme de manière locale. Donc pas uniquement de l'inflammation, mais également booster une réponse immunitaire ciblée. Mais aussi des réponses diverses, puisque quand on pense au système immunitaire, on pense à une défense contre des pathogènes, des agents microbiens, mais en fait le système immunitaire a aussi vraiment un rôle profond dans les tissus comme un rôle de réparation. Et il a été montré également que ces neurones sont essentiels dans le contexte de la réparation tissulaire pour aller booster des cellules immunitaires comme les neutrophiles et les macrophages qui vont permettre une réparation de la peau. Donc des neurones, on va dire, nocicepteurs associés à la douleur qui vont jouer un rôle clé en modulant l'activité des cellules immunitaires, aussi bien pour l'inflammation, pour booster une immunité locale et pour réparer des tissus. Alors est-ce que c'est uniquement ces neurones peptidergiques nocicepteurs ? En fait non, ces neurones non peptidergiques, d'autres types de neurones, sont aussi capables d'avoir d'autres actions. Et par exemple, il a été montré que ces neurones en particulier vont être capables, dans un modèle, un modèle où la peau est affectée par une exposition aux UV, est capable de produire un autre composé qui va aller agir sur des cellules immunitaires, notamment des macrophages, pour promouvoir la réparation et booster aussi l'inflammation. Et ces autres neurones également vont être capables, en produisant du glutamate, un neurotransmetteur, d'aller agir directement sur des mastocytes, importants dans la réponse aux allergies, pour diminuer l'expression d'un récepteur clé, diminuer le seuil d'activité de ces cellules qui médient la réponse allergique, et donc réguler comme ça, un peu comme un rhéostat, la capacité de ces cellules, de ces mastocytes dans la peau, de répondre à l'allergie. Donc on a véritablement un rôle extrêmement important et divers de l'innervation sensorielle dans la régulation de tout un tas de processus et d'activités des cellules immunitaires dans la peau. À l'inverse, les cellules immunitaires, une fois qu'elles sont activées, ou indépendamment, si elles sont activées directement, elles produisent, comme on l'a vu, différentes molécules, des cytokines notamment, qui vont être capables d'agir sur les neurones qui ont des récepteurs pour ces différentes cytokines. Alors je voudrais juste rappeler qu'il existe que différents types de cellules immunitaires peuvent produire des cytokines différentes en fonction du contexte et de leur identité, et qu'on distingue en fait des immunités ou des réactions, on va dire, immunitaires différentes. L'immunité type 1 qui va conduire à la production de ces cytokines, type 2 qui est plutôt type 1, c'est vraiment les bactéries intracellulaires, les virus, mais aussi dans certains contextes de cancer. L'immunité de type 2, c'est dans le contexte des réponses allergiques ou de réponses à certains parasites. Et l'immunité de type 3, c'est dans le contexte de certains champignons ou de bactéries qui restent dans l'espace extracellulaire. Et différentes cellules vont produire ces différents types de cytokines. On va beaucoup s'intéresser à l'immunité de type 2, notamment dans le contexte de la démangeaison et de l'eczéma, puisque l'ensemble de ces cytokines est produite dans ce contexte-là, qui est aussi la réponse allergique. Et puis ces différentes cytokines, l'expressivité de ces différents types d'immunité et l'expression de ces différentes cytokines peut aussi être modulée par différents facteurs, et là on a des interactions croisées. Donc ce qu'on avait vu, et c'est toujours vrai, mais ce schéma est un tout petit peu trompeur, c'est que différents récepteurs présents sur les neurones peuvent reconnaître différentes cytokines produites dans des contextes différents et liées soit à l'immunité de type 1, ce qui va promouvoir la douleur, soit à l'immunité de type 2, ce qui va médier la démangeaison. Alors, ces différents types de récepteurs, ici c'est un schéma, ce n'est pas forcément les mêmes neurones. Puisque je vous ai dit, c'est tous des neurones qui expriment ce marqueur TRPV1, TRIBV1, mais c'est un schéma qui illustre que différents neurones vont être capables de répondre à des cytokines différentes et médier des réponses ou des signaux différents. Et alors, ces travaux sont extrêmement récents, en particulier sur ce qui concerne la démangeaison. Il y a eu des travaux clés, donc c'est en 2017, donc c'est quand même assez récent. Et ce qui a vraiment été assez incroyable, c'était de montrer ou d'observer que ces récepteurs à des cytokines de l'immunité de type 2, comme le récepteur à l'IL-4, à l'IL-13, et je tiens à dire que ce qui est important, c'est aussi que tous ces différents récepteurs vont utiliser une voie de signalisation qui est la même, qui passe par ces facteurs JAK1, JAK2. On verra dans le contexte des biothérapies que c'est important, vont être capables de converger pour médier la démangeaison, alors que d'autres cytokines vont médier la douleur. Et ça, c'était des travaux absolument clés parce que ça ouvrait la possibilité d'aller manipuler spécifiquement ces voies dans les neurones pour essayer, par exemple, de baisser ou de diminuer ou de contrôler la démangeaison ou de moduler la réponse à la douleur. Alors, pour l'instant, la douleur, c'est pas forcément extrêmement probant encore, c'est compliqué, mais on verra que dans le contexte de la démangeaison ou du prurite, il y a des choses qui ont été montrées. Donc, ces cytokines, on va dire, ou ce type d'inflammation de type 2, est vraiment clé dans l'initiation, la régulation de la démangeaison. Donc itch, pardon, c'est démangeaison. Vous allez voir beaucoup itch et scratch. Itch, démangeaison, prurite et scratch, le grattage. Et ce qui a été montré, c'est que quand on bloque ces récepteurs à ces cytokines ou les voies en aval, JAK1, JAK2, on est capable de bloquer la sensation démangeaison. Donc encore une fois, différentes cytokines qui peuvent activer différemment des neurones sensoriels et médier ou réguler des réponses différentes. Ok. Alors maintenant, on a parlé des cellules immunitaires, on a parlé des neurones, un dialogue, un vrai dialogue. Les neurones peuvent produire des signaux qui vont affecter les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires vont produire des cytokines qui vont affecter les neurones. Et en général, on a des boucles. Par exemple, dans l'inflammation, on peut avoir une inflammation déclenchée, ensuite une stimulation, une inflammation neurogénique par-dessus, etc., etc. Mais le troisième larron dans cette équation, finalement, c'est le monde microbien. C'est-à-dire que ce dialogue existe et en plus, il est soumis ou il est en interaction avec l'ensemble des micro-organismes présents, soit agents pathogènes, soit microbiote cutané. Et donc on va regarder un petit peu quelle est l'influence de ces agents microbiens et comment ça passe. Donc ce que je vous ai dit, c'est que donc il y a un dialogue entre les neurones, les cellules immunitaires et la présence de micro-organismes dont on sait qu'ils sont clés pour la maturation, le développement, l'efficacité, les propriétés des cellules immunitaires. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'inverse, les cellules immunitaires vont produire ou pas, par exemple, des peptides antibactériens qui vont moduler ou affecter la composition de ce microbiote. Donc, c'est une véritable interaction. Et dans l'idée qu'on a du système immunitaire et du système nerveux, ben c'est que le système nerveux médie le toucher, la sensation, les perceptions sensorielles, et le système immunitaire s'occupe d'interagir avec ce monde microbien. Et en fait, il y a eu une mini-révolution, ou en tout cas un vrai changement de paradigme, il y a à peu près une dizaine d'années, quand il a été montré que, en fait, les neurones, et notamment les neurones sensoriels, sont totalement capables de détecter directement un grand nombre de bactéries ou d'agents de micro-organismes. Par exemple, il a été montré, et alors là on est dans les neurones nocicepteurs, mais on verra que c'est aussi le cas pour d'autres neurones, mais c'est des neurones qui donc relaient la douleur, par exemple, expriment ce récepteur TLR4, qui est un récepteur qui est capable de reconnaître un composé, le lipopolysaccharide, qui est présent dans la membrane de toutes les bactéries gram-négatives. Mais ces neurones sont également, on sait qu'ils ont ce récepteur ici, TRPA, TRPV5, qui sont capables de reconnaître d'autres composés qui sont importants. Et ici, par exemple, j'en ai déjà parlé, le staphylocoque aureus, staphylococcus aureus ou staphylocoque doré, va produire tout un ensemble de composés, notamment des toxines qui forment des pores, qui vont être capables d'activer ces neurones qui médient la douleur. Ici, un autre exemple de Staphylococcus pyogenes, qui est en fait le doux nom d'une bactérie associée à une pathologie qui a aussi un doux nom qui s'appelle la bactérie mangeuse de chair, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait des ravages et qui est capable donc de manger la chair et de faire des infections extrêmement graves contre lesquelles l'organisme n'arrive pas à se défendre, et on verra entre guillemets aussi pourquoi, où il faut enlever la peau, la seule solution est généralement d'enlever la peau qui est atteinte, également est capable de produire des agents qui vont agir directement sur les neurones et causer directement une grande douleur. Et c'est le cas aussi, par exemple ici, de Candida albicans, un champignon qui est assez fréquent et assez présent dans le microbiote et qui est capable également, on ne sait pas exactement comment, mais dont il a été montré qu'il est capable d'agir directement sur ces neurones nocicepteurs. Donc l'idée que ce qui est de l'ordre de la détection ou de l'interaction directe avec les agents pathogènes ou les micro-organismes est uniquement du ressort des cellules du système immunitaire était quelque chose qui, en fait, a complètement volé en éclats. Et donc, très récemment aussi, ce qui a été bien vu également dans le cas du staphylocoque doré, c'est que de manière directe, ces micro-organismes sont capables, sur les neurones qui médient cette fois-ci le prurite, d'agir directement et de moduler la démangeaison et d'induire une réponse de grattage, de rentrer dans un cycle démangeaison-grattage. Donc ce n'est pas uniquement les neurones nocicepteurs, mais aussi les neurones sensoriels qui médient le prurite. Alors un exemple, des exemples divers, donc ici par exemple, Candida albicans, mais c'est aussi le cas dans le contexte du psoriasis, qui est une pathologie de la peau dont je ne parlerai pas, on a une activation des neurones sensoriels qui va médier une réponse relativement protectrice en passant par la production d'une cytokine ici qui va médier la production de peptides antimicrobiens. Et à l'inverse, et c'est pour ça que Streptococcus pyogenes est si, entre guillemets, délétère quand elle est vraiment capable de se développer, les micro-organismes sont en fait capables d'utiliser les interactions neuro-immunitaires pour altérer ou éteindre la réponse immunitaire que l'organisme pourrait avoir pour se défendre. Dans ce contexte-là, le fait que les neurones soient activés, donc il y a une douleur intense, mais en même temps, ils vont activer la production de le relargage de CGRP qui va diminuer l'activité de certaines cellules immunitaires et limiter leur capacité à se défendre contre cet agent pathogène. Et on va retrouver exactement la même situation, via d'autres cellules, dans le cas du staphylocoque doré. Donc des micro-organismes qui vont, entre guillemets, soit utiliser à leur avantage, soit dévier, soit moduler l'ensemble de ces interactions neuro-immunitaires. Et alors, il y a une foule d'interactions neuro-immunitaires qui ont été décrites avec différentes bactéries, différents virus, différents champignons, etc., qui vont, dans des contextes très différents, créer une inflammation, éteindre une inflammation, en profiter pour proliférer, etc. Juste une petite note, ça n'est pas uniquement une modulation des interactions dans le contexte de la réponse aux pathogènes. Par exemple, là encore, des travaux très récents montrent qu'il y a une véritable interaction croisée entre neurones, cellules immunitaires et agents microbiens. Dans le contexte du staphylocoque doré, on a des lymphocytes T qui sont, entre guillemets, primés pour la réponse à ce staphylocoque. Quand on a une rupture de la barrière de la peau, on va avoir une amplification de ces lymphocytes T, entre guillemets, mémoire, qui vont être essentiels pour promouvoir la régénération des neurones sensoriels qui normalement innervent la peau et qui vont être atteints dans ce contexte de rupture de la barrière. Donc le dialogue, cette fois-ci, agent microbien et cellules immunitaires, va permettre de reconstruire des neurones qui ont été atteints au niveau de la peau. Alors, au-delà des agents pathogènes, il y a aussi un point qui est très important finalement, c'est, je vous ai dit, les neurones sont capables de répondre directement à certains micro-organismes. Et ça va être important. Mais ce qui a été également quelque chose de très important, y compris dans le contexte physiopathologique, c'est qu'il a été montré que les neurones sont également capables de répondre directement à certains allergènes. Par exemple, les acariens, house dust mites, c'est-à-dire une allergie déclenchée par les acariens présents dans les maisons, je ne sais même plus comment on dit ça en français, les acariens sont capables d'agir directement sur les neurones sensoriels, il faut regarder ce petit schéma ici, de relarguer de la substance P et d'activer les cellules, les mastocytes dans ce contexte-là et déclencher ou promouvoir une réponse inflammatoire. Et donc, dans le contexte de la démangeaison, on a des activations et des interactions vraiment croisées entre une réponse allergique qui va pouvoir promouvoir une réponse un petit peu plus directe d'une activation de démangeaison. Et donc, les allergies vont pouvoir enclencher une réponse, un cycle démangeaison-grattage en combinaison avec une réponse, on va dire, plus classique de cytokine de type 2 qui est capable de promouvoir ce processus. Donc, dans l'ensemble, on a véritablement de ce schéma où il y a un dialogue, on va dire, monde microbien, cellule immunitaire, un dialogue neurone, cellule immunitaire. On se retrouve vraiment avec un dialogue entre, on va dire, monde microbien, neurones, cellules immunitaires et des interactions croisées qui vont pouvoir créer des boucles d'interactions positives, d'interactions négatives, dans des contextes d'inflammation, de douleurs chroniques, de démangeaisons chroniques, mais aussi de lutte par rapport à des infections particulières au niveau de la peau. J'ai aussi juste mentionné le fait que dans la réponse aux allergènes, on pouvait avoir une réponse directe de certains neurones. Donc ça va même un petit peu au-delà même du monde microbien. Ça peut être aussi des irritants cutanés, des irritants cutanés et des expositions de tout un tas de composés éventuellement qui peuvent passer par la peau et qu'on qualifie de plus en plus comme étant des molécules faisant partie de ce qu'on appelle l'exposome, des composés qui peuvent agir sur des cellules qui sont présentes dans la peau, soit des neurones, soit des cellules immunitaires, et altérer également ces interactions croisées. Donc, comme vous avez peut-être vu, ou pas, mais dans toutes les références qui sont citées, les références bibliographiques, ces travaux sont finalement récents. C'est-à-dire, c'est des travaux qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, qui sont, on va dire, en plein développement. Et la réalisation de toutes ces interactions croisées a ouvert des portes pour avancer, évoluer dans le traitement de certaines pathologies. Alors, j'ai parlé des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, c'est encore quelque chose qui est vraiment court, mais dans le contexte des maladies du prurit ou de la démangeaison chronique, l'étude, la compréhension de ces interactions a vraiment permis de développer des nouveaux traitements. Et donc, je vais terminer ce cours en vous donnant un exemple de qui a vraiment permis, on va dire, de faire évoluer les choses. C'est un exemple, l'exemple de la, ce qu'on appelle la dermatite atopique ou l'eczéma, donc qui est une pathologie, on va dire, de prurite chronique, mais qui fait aussi partie d'un ensemble de pathologies beaucoup plus, à spectre beaucoup plus large, qui sont qui peuvent aussi être, les avancées thérapeutiques peuvent aussi être appliquées à d'autres pathologies de ce type de démangeaison chronique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eczéma ? C'est une maladie qui est extrêmement répandue. Donc, ça touche 15 à 20% des enfants dans les pays industrialisés. Par exemple, ça a une peau saine, un petit peu atteinte. Et puis, on va se trouver assez vite avec des lésions cutanées. Ça touche 2 à 10% des adultes, donc c'est quand même assez fréquent. Et ça débute à 90% des cas avant 5 ans, donc très tôt dans la vie, et une maladie qui peut s'installer ou disparaître, en fait. Donc c'est caractérisé par un prurite intense et chronique. Donc un prurite, encore une fois, c'est une sensation un petit peu désagréable qui déclenche un besoin impérieux de se gratter. Elle est caractérisée par des lésions cutanées qui peuvent être chroniques. La topographie des zones atteintes est très variable selon l'âge et différente en fait chez les bébés, les enfants, les adultes. C'est aussi caractérisé par une peau très sèche, des poussées entrecoupées de périodes de rémission, associées à une dysbiose du microbiote cutané. On verra, il y a une présence de certaines bactéries, notamment le staphylocoque doré dont on a déjà parlé, et caractérisée par des antécédents, ce qu'on appelle d'atopie, donc de réponses inflammatoires ou allergiques exacerbées. Alors quand je dis antécédents, c'est soit personnels, soit familiaux, par exemple d'asthme, de rhinite allergique, d'allergie alimentaire, etc. Et je tiens à dire que les avancées qui ont été faites dans le domaine de l'eczéma sont aussi, on va dire, utilisés dans d'autres types de maladies atopiques, notamment comme l'asthme ou ces autres maladies. Donc c'est une maladie qui est multifactorielle et j'ai utilisé ce schéma très compliqué juste pour dire qu'on ne sait pas quelle est la cause de l'eczéma. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a potentiellement une part de génétique. Et on connaît certains facteurs de risque génétique pour l'eczéma. On sait qu'il y a aussi des composés, encore une fois, de ce fameux exposome, des choses auxquelles on est exposé. Et la seule chose, et on sait également qu'on a une dysbiose du microbiome intestinal, du microbiome cutané. Ça commence par différentes phases, une phase de réponse d'immunité innée, et puis on rentre dans une phase où l'immunité adaptative et notamment les réponses de type 2 dont j'ai déjà parlé, donc parlera, et on rentre dans ce qu'on appelle ce fameux itch scratch cycle dont je vais parler, donc de démangeaison, grattage, et puis ensuite une sensibilisation à certains IgE, etc. Donc on connaît bien la manière dont l'aspect chronique se met en place. Ce qui cause en fait initialement le début de la pathologie est probablement variable d'un individu à un autre et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Une hypothèse, c'est que quoi qu'il arrive dès le début, des petites lésions ou des petites fragilités dans la peau pourraient être la cause initiale de, on va dire, du début de l'eczéma, soit parce qu'il y a une peau extrêmement sèche et que donc l'intégrité de la barrière est compromise, soit pour d'autres raisons. Et c'est en fait l'existence de certains facteurs génétiques qui fragilisent cette barrière qui ont permis d'émettre cette hypothèse. Alors, au niveau, on va dire, de ce qui se passe au niveau de la peau, on va le voir sur ce type de schéma. Donc, si on commence sur une peau qui est saine, on a ici un microbiote normal, enfin, comment ça, normal ou en tout cas relativement équilibré, avec les cellules immunitaires. Et puis, sur une peau qui est au départ non lésée, on va avoir une réduction de la diversité microbienne et on va commencer à avoir, je vous le disais, cette déficience de la barrière. Et cette déficience de la barrière va conduire à la production de certaines cytokines qui vont rapidement déclencher l'activation de ces lymphocytes innés de classe 2 qui vont produire des cytokines, commencer à produire des cytokines qui vont activer et conduire à l'activation de cette immunité et cette inflammation de type 2. Et toute la production, tout ce qui va se passer ici, va en fait conduire à l'activation via ces cytokines de type 2, à l'activation de ces fibres qui vont médier une démangeaison, un prurite. Et on va rentrer dans ce que l'on appelle un cycle démangeaison-grattage qui va lui-même contribuer à augmenter ou maintenir les défauts de barrière de la peau. Et on a une continuité, un cycle où le grattage contribue à altérer l'intégrité physique de la peau qui va continuer à produire ces cytokines qui vont induire de la démangeaison, qui va conduire à du grattage, etc. etc. Alors ce fameux cycle démangeaison-grattage, comment est-ce que ça se passe? Donc je disais, on a au départ une petite disruption, une barrière qui est un petit peu moins établie par les kératinocytes, qui vont conduire à la production de cytokines qui vont, des deux côtés, agir sur les réponses immunitaires, sur les cellules immunitaires, mais aussi directement sur ces neurones qui vont médier une réponse, qui vont médier un prurite. Et on a un dialogue aussi entre ces cellules immunitaires et ces neurones qui vont médier le prurite, où les cellules immunitaires vont produire des cytokines qui vont directement activer ces neurones. Okay ? Donc l'activation de ces neurones va médier, relayer ce signal de démangeaison jusqu'au cerveau, qui va conduire à une réaction de grattage. La réaction de grattage amplifie ou maintient le dysfonctionnement de la barrière, etc., etc., etc. Donc ce cycle vraiment repose sur des interactions particulières qu'on a vues, qui sont qu'on va avoir production de ces cytokines quand on a une rupture de la barrière, qui vont agir directement sur ces neurones qui vont médier le prurite. On sait également que des dysbioses du microbiote, comme la présence de ces staphylocoques dorés qu'on a vus, qui sont présents dans ce contexte-là et qui sont associés à des disruptions de la peau, vont également médier ou amplifier cette démangeaison. Et que ces cytokines vont également induire l'activation de ces cellules immunitaires qui vont encore une fois contribuer à produire ces cytokines de type 2, IL-13, IL-4, 31, histamine, etc., qui vont aussi agir sur les neurones. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, finalement, l'activité ou l'action de se gratter, de quelle manière ça va contribuer à la pathologie. Donc, je dis ça va contribuer à maintenir des lésions dans la peau ou à amplifier des lésions dans la peau, ce qui va, etc. Mais ce qui est clair aussi maintenant, c'est qu'on sait que l'action de se gratter, même de manière mécanique, va pouvoir induire la production, ou en tout cas le relargage, de certains neuropeptides qui vont contribuer également à l'amplification ou au maintien du cercle vicieux démangeaison-grattage. Donc on a des vraies boucles. Là, c'est vraiment, on est dans une boucle neuro-immunitaire locale, mais qui fait aussi intervenir ce cycle démangeaison-grattage. Alors pourquoi est-ce que quand on se gratte, on n'a plus de démangeaisons ? J'en ai dit deux mots. La première chose, c'est qu'en fait, quand on se gratte, on a une très légère sensation de douleur qui, en fait, au niveau de la moelle épinière, va complètement bloquer la sensation de démangeaison. Donc, de manière très rapide, l'interaction dans la moelle épinière, entre les fibres nociceptives et échimédylprurite, vont vraiment permettre ce soulagement très, très temporaire. Et puis aussi, la sensation de grattage va amener jusqu'au cerveau une activation des circuits de la récompense, notamment des circuits dopaminergiques, qui va apporter une sensation de plaisir et un renforcement positif avec l'action de se gratter. Et donc on a là aussi également donc une boucle. On se gratte, il n'y a plus la démangeaison, renforcement, circuit de la récompense, et ce cycle continue. Alors comment est-ce qu'on est arrivé finalement à comprendre ça en regardant des patients, des coupes, des pathologies, enfin des échantillons de différents patients, etc. En fait, comme souvent et beaucoup, et je le dis, mais je tiens à le répéter parce que c'est des choses qui sont, je pense, importantes à répéter, en fait, une grande partie de ces découvertes a été faite grâce à l'étude de modèles expérimentaux, notamment de modèles expérimentaux développés chez la souris, où on a été capable, au niveau moléculaire, cellulaire, de comprendre toutes les boucles, les 6 différentes cytokines impliquées, les différents types de neurones impliqués, les différentes cellules immunitaires, et d'aboutir à vraiment l'identification qu'un facteur central de cette pathologie et de nombreuses pathologies chroniques du prurite, qui encore une fois peuvent être causer, on va dire, des vraies altérations et des vrais problèmes au quotidien chez un grand nombre de personnes, passaient par ce type d'inflammation. Alors pourquoi est-ce que c'était important ? Parce que c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'il a été montré récemment que toutes, finalement, ces cytokines de type 2, d'inflammation, d'immunité de type 2, vont être capables d'activer ces neurones et qu'il y a différents récepteurs, mais qu'il y a des voies en aval qui sont conservées. Et donc là, vous voyez, 2017, ça a ouvert la voie à un grand nombre de traitements différents qui sont aujourd'hui prescrits pour traiter notamment l'eczéma, mais on verra d'autres. J'en dirai deux mots, d'autres pathologies, notamment l'asthme, qui est aussi une pathologie atopique clé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces médicaments ? C'est des bloquants, par exemple, c'est ce qu'on appelle des biothérapies, c'est-à-dire des composés qui sont capables de moduler des processus biologiques. Ici, c'est des anticorps bloquants qui bloquent donc l'activité des récepteurs interleukine 4, mais qui sont aussi pour d'autres capables de bloquer différents types de récepteurs, interleukine 13 et interleukine 4, etc., qui ont des pathologies, enfin, qu'on peut utiliser maintenant, des posologies qui sont recommandées pour y compris pour des bébés, pour des enfants, etc. Et puis des composés oraux, parce que ça ici c'est des injections, qui sont des composés oraux qui vont cibler cette voie centralisée JAK1, JAK2 qui est en aval de ces différents récepteurs et qu'on peut utiliser également qui est recommandé dans différents contextes, etc. Et puis, il y a tout un ensemble de composés qui sont actuellement en phase 3 qui vont cibler différentes voies. Alors, bien sûr, aujourd'hui, dans un contexte d'eczéma, alors je ne suis pas dermatologue, je parle de ça, mais je ne peux pas. C'est les recommandations de la Société française et américaine de dermatologie, mais je ne peux pas forcément en dire beaucoup plus. J'y reviendrai. La première ligne de traitement dans le contexte de l'eczéma, c'est de bien hydrater la peau et c'est des corticoïdes, des crèmes aux corticoïdes locales, parce qu'en général, ça fait vraiment, c'est un traitement qui marche très bien. Mais dans les cas vraiment résistants où c'est un vrai problème, il y a maintenant ces différents médicaments et ces différentes solutions thérapeutiques qui ont été développées et qui sont proposées. Et ça, c'est juste pour, encore une fois, pour vous donner donc ces composés ont été mis sur le marché 2018, 2022. Et là, ce dernier composé, c'est avril 2025, septembre 2023 aux États-Unis, notamment cet anticorps anti-bloquant IL-13 qui a l'air particulièrement efficace. Et puis les inhibiteurs de JAK qui sont quand même mieux, puisque, enfin, plus pratiques, c'est des comprimés oraux. Sont également importants. Et puis là, voilà, donc d'autres crèmes, etc. Donc tout ça pour dire que je vous ai donné un exemple, c'est l'exemple de l'eczéma. De manière tout à fait parallèle, par exemple pour le psoriasis, il y a une petite révolution avec différents composés qui touchent à la voie IL-17, où on a aussi des interactions, interleukine 17, des interactions neuro-immunitaires qui ont été particulièrement bien mises en évidence et qui ont permis le développement de ces approches thérapeutiques. Donc, regarder, comprendre, disséquer des interactions croisées dans un organe barrière comme la peau, au-delà de la compréhension vraiment des mécanismes biologiques qui régulent la manière dont les organismes interagissent avec l'environnement, le monde microbien, la perception sensorielle, dans un contexte physiologique, pathologique, la douleur, la démangeaison. Finalement, c'est extrêmement important également pour pouvoir développer des nouvelles approches thérapeutiques dans des pathologies auxquelles, finalement, on n'avait pas forcément pensé, comme ces pathologies chroniques du pleurite chronique. Donc toutes ces interactions qu'on a vues sont vraiment des interactions extrêmement locales et c'est vraiment, entre guillemets, ces interactions locales ont été véritablement magnifiquement étudiées grâce à des nouveaux modèles où on peut marquer certains types de neurones, isoler certaines cellules immunitaires, regarder les interactions au niveau de la peau, etc. etc. Alors quelles sont les perspectives maintenant ? J'ai envie de dire une perspective assez importante, c'est que ben, on sait que ces pathologies sont modulées par tout un tas de facteurs. Donc j'ai parlé du microbiote, je vous ai parlé du staphylocoque doré qui est en lui-même capable d'induire de la démangeaison. On voit que dans le contexte de l'eczéma, on a une évolution avec une colonisation des zones lésées, un eczéma où on a une surreprésentation du staphylocoque doré. Est-ce qu'on peut développer, initier des nouvelles approches thérapeutiques qui visent à moduler et réguler, par exemple, le microbiote cutané? Ça, c'est un grand champ d'exploration actuel qui serait finalement une alternative à, ou un complément en tout cas, à des approches ou des biothérapies diverses. Et puis, on sait aussi, et vous le savez, on le sait tous, mais ça a été très très bien démontré, que toutes ces pathologies qui touchent la peau ont une composante extrêmement importante du stress. À chaque fois que vous allez chez le médecin et que vous avez des gens, est-ce que vous traversez une période de stress ? Bon, je ne sais pas, moi je fais mes cours au Collège de France en ce moment, est-ce que c'est une période de stress ? Je ne sais pas. En tout cas, on sait que c'est sensible au stress. On sait également qu'il y a des voies et des boucles. Et le développement de modèles animaux et également aujourd'hui permet d'aller explorer plus en détail toutes ces interactions croisées qui sont, on sait que le stress aggrave ces pathologies. On ne sait pas exactement si c'est un facteur déclenchant ou pas, mais d'aller regarder dans le contexte donc des pathologies dites allergiques, mais qui incluent l'eczéma, il y a d'autres pathologies allergiques, et également le psoriasis, d'aller regarder comment les signaux liés au stress modulent ces interactions neuro-immunitaires qui elles-mêmes peuvent contribuer ou réguler toutes ces différentes pathologies de la peau. Et puis un autre aspect en lien avec les interactions neuro-immunitaires, c'est que en fait, il y a des boucles à un autre niveau qui sont que quand on a ces pathologies de la peau qui sont visibles, ça peut créer ou entraîner une charge émotionnelle négative parce que parce qu'on considère que c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est un stigmate qui peut entraîner un stress. Le fait d'avoir cette pathologie peut entraîner un stress ou une valence négative psychologique qui elle-même peut affecter cette pathologie, qui elle-même, etc. Donc, en parallèle d'un cycle démangeaison-grattage, on peut rentrer dans d'autres types de cycles dommageables qui font intervenir d'autres boucles neuro-immunitaires dont on peut imaginer qu'on pourra maintenant les disséquer. Alors, j'ai parlé de la peau, mais alors, il y a plein d'autres organes barrières. Et comme je vous le disais, par exemple, les poumons, mais c'est le cas aussi des intestins et des méninges, on retrouve exactement le même type d'interaction avec des fibres sensorielles qui vont innerver ces organes, ces fibres nociceptives qui ont exactement les mêmes boucles d'interaction qui vont produire les immunités type 2, etc., etc. Donc on peut se baser sur tout ce qu'on a vu sur la peau pour comprendre ce qui se passe dans ces organes barrières et rajouter ou intégrer, on va dire, l'élément ou la couche supérieure, une couche additionnelle qui est la modulation par le système parasympathique et sympathique et la régulation de ce qui se passe soit au niveau des poumons, soit au niveau des intestins. Au niveau des poumons, tout ce qui va être démangeaison, l'équivalent entre guillemets de la démangeaison, ça va être par exemple la toux ou des réponses qui vont permettre d'expulser certaines choses des voies aériennes. Et il y a des équivalents aussi au niveau des intestins. Et ça, j'en parlerai vraiment plus en détail l'année prochaine. Voilà, et pour finir, donc maintenant qu'on a bien posé ce qui se passe à un niveau très périphérique de la peau, des interactions neuro-immunitaires, de comment ces interactions neuro-immunitaires peuvent moduler des fonctions essentielles, sont importantes pour la physiologie, pour la pathologie. On va voir dans le dernier cours de cette année, la semaine prochaine, quelque chose de complètement différent qui est finalement comment est-ce que le cerveau est capable d'avoir une petite idée de ce qui se passe justement en termes d'activation périphérique du système immunitaire, comment, ou les travaux récents qui permettent de comprendre un peu mieux ou d'émettre des hypothèses sur comment est-ce que le cerveau est capable de se représenter l'état du système immunitaire périphérique, comment est-ce qu'on se sent et de comment le moduler. Et on va parler d'un concept qui s'appelle l'immunoception et donc un nouveau entre guillemets sens qui a été décrit, qui est en cours d'élaboration, qui est vraiment la manière dont le cerveau est capable de se représenter cette modulation, cette activation ou l'état du système immunitaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.